Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tous les jeunes veulent travailler dans la tech et rêvent de devenir développeur ou développeuse. Eh bien, c'est pas étonnant parce que le métier de dev, en fait, c'est celui qui est le plus représenté dans les médias ou dans la culture populaire. Pourtant, il y a des tas d'autres métiers dans le numérique. Aujourd'hui, je suis avec Kevin Davin et ensemble, on va parler de son rôle d'ingénieur de fiabilité du site ou site Reliability Engineer en mauvais anglais. Si le DevOps n'est pas un métier, le SRE, lui, est un métier DevOps et je dirais même le métier DevOps par excellence. En tout cas, c'est l'impression que j'ai de loin. Donc, il faut qu'on en parle.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bonjour à toi, cher compagnon, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Aparté, l'émission où je m'entretiens avec un invité. Alors, pour fêter le lancement de mon job board avec My Little Team, j'ai décidé de faire une série d'entrevues pour parler des métiers de la production, de l'exploitation, de l'infrastructure. Mais on reparlera de mon job board en fin de vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin si tu cherches du taf dans le milieu du numérique. Avant de commencer, je te rappelle que j'ai créé et que j'anime une communauté en ligne francophone dédiée au cloud et au DevOps, qui est une communauté de professionnels. On est déjà plus de 1000 à échanger et à partager tous les jours. Donc, si tu veux pas rester seul face à tes questions, rejoins-nous. C'est le premier lien en description pour t'inscrire. Ou alors, tu peux aller sur le site compagnon-devops.fr. Alors, bonjour Kevin, merci d'avoir répondu à mon appel à témoignage. Est-ce que tu peux justement te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais dans la vie ?
Alors, bonjour tout d'abord, donc Kevin, je fais plein de choses. Tout d'abord, j'ai travaillé pas mal dans le service, maintenant je suis chez Gradle, où je travaille en tant que back-end engineer. Et je suis un peu plus sur la partie qui va gérer, être en lien avec la prod. Donc, l'application elle-même, mais comment l'application doit tourner en prod et doit bien réagir dans cet environnement-là, parce que c'est bien de développer des choses. C'est mieux si ça tourne en prod, parce que je ne sais pas toi, mais moi, en tout cas, les applications, si elles ne sont pas délivrées en prod, un jour, elles ne servent à rien. Et à côté de ça, je suis sur pas mal de sujets, GitLab Hero, où j'aime et j'adore l'outil GitLab et je le promeux le plus possible. Je travaille sur la partie Google Cloud aussi, où je suis développeur advocate, expert plutôt, si pour utiliser le bon terme. Et vu que j'ai un gros background de dev, je suis GDE aussi sur la partie Kotlin.
Ouais. Tout à fait, je suis d'accord avec toi, si on développe une application, c'est bien qu'elle tourne en prod. Et d'ailleurs, je trouve que la prod, on n'en parle pas assez pendant les études. En tout cas, moi, j'ai découvert ça au moment où je me suis lancé en fait dans la vie professionnelle. Alors, j'ai perdu mes petites notes, je vais les retrouver. Alors, tout d'abord, je vais te poser une de mes questions rituelles. C'est quoi, pour toi, ta propre définition du DevOps ?
Alors, ma définition du DevOps, je l'ai apprise au fur et à mesure du temps. Pour moi, d'abord, c'est une philosophie. On voit plein de jobs sortir partout, ingénieur DevOps. Pour moi, ingénieur DevOps, c'est philosophe. Donc, j'aime pas du tout cette appellation d'origine. Pour moi, le DevOps, c'est vraiment ce fait que les équipes de dev et de prod vont travailler ensemble. Ça va intégrer la CI, ce qui est au milieu, pour déployer. Ça va prendre aussi des éléments qui viennent de la prod pour le monitoring, ce genre de choses. C'est vraiment ça pour moi, la philo DevOps, c'est avoir tous ces éléments-là ensemble pour intégrer en amont les choses de l'appli, mais aussi a posteriori, c'est-à-dire prendre en compte un besoin de prod dans ton appli. L'ingénieur de prod est autant un client que le futur client. Parce que si tu livres ton appli mais que tu ne peux pas la monitorer, tu vas être un peu embêté.
Et du coup, pour aller avec ça, comment toi t'as rencontré le DevOps et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ?
Comment je l'ai rencontré? Majoritairement par des expériences. Je travaillais dans le service avant. Petite expérience, petit à petit, en fait, il y avait quasiment un shadow IT interne là où je bossais, où les services nominaux n'étaient pas cohérents avec ce qu'on voulait. C'était du SVN quand on voulait du Git. C'était du. Je ne citerai pas le nom alors qu'on voulait du GitLab. Donc, on a commencé à livrer et utiliser quelque chose d'autre. Et à partir de là, ben, il y a une prod, il y a des utilisateurs. Si ton système est down, ça veut dire que tous tes devs, ils sont hors service, ils ne peuvent pas travailler, et donc tu vas perdre du temps. Donc pour moi, c'est là que j'ai commencé à découvrir la prod, et au fur et à mesure, du fait de mon background dev, ben, j'ai toujours voulu mêler ma logique de dev, de comment on gère les choses avec ma gestion de la prod. Et derrière, ben, GitLab. GitLab, ben, promeut la philosophie DevOps à travers l'outil. Et je l'ai découvert et utilisé au fur et à mesure des nouvelles versions GitLab.
C'est vrai que moi aussi, ça m'est arrivé. Au début de ma carrière, j'étais développeur et puis je suis passé petit à petit vers la prod. J'ai même background, donc j'ai cette envie aussi d'automatiser les choses et je m'étais posé ces questions-là aussi quand moi j'ai vu en fait les murs de l'incompréhension au sein des boîtes où j'étais. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, justement, le métier de SRE. Alors, tu m'as dit que tu n'avais pas officiellement le titre SRE, mais que tu faisais ce qui se rapprochait du SRE. Alors, le SRE, c'est un métier qui a été popularisé par Google, si je ne me trompe pas. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et le définir? Parce que, comme je t'ai dit en introduction, moi, je ne le connais pas.
Alors, pour le définir, j'aime bien généralement pour le présenter utiliser des termes que les gens connaissent un peu plus. Par exemple, si on prend le métier d'admin 6, en fait, le SRE, c'est logiquement l'évolution de l'admin 6 qui a pris les bonnes pratiques du dev et qui les a intégrées dans son fonctionnement. Donc, d'une part, ça ressemble beaucoup au DevOps. Et d'ailleurs, dans les définitions, très souvent, il est dit que le SRE est une implémentation de la philosophie DevOps. Donc, c'est comment en vrai on va gérer ce genre de choses. Quand DevOps c'est une philo, là, SRE c'est une mise en application. Et dans ce métier, bah, tu peux être amené à gérer beaucoup de choses. Majoritairement, on va avoir des sujets autour de la disponibilité des services, suivi des performances, de la latence, de l'efficacité, de savoir si tout fonctionne correctement. Ça, c'est quand tu livres et que ton appli tourne. Mais aussi, ton appli, tu la livres pas qu'une fois. Donc, savoir gérer tout ce qui est le change management, le monitoring, savoir quoi faire quand un système tombe et essayer aussi d'aider les équipes de dev à avoir conscience de tout ça et que quand ton petit service Redis de cache qui se trouve dans un bout de ton infrastructure tombe, ça ne fasse pas tomber tout le reste. Donc ça va être aussi, moi je le fais pas mal chez Gradle, mais je le fais aussi beaucoup en tant que GDE sur la partie cloud, sur aider les personnes à comprendre ce genre de choses pour ne pas développer des gros monolithes distribués à la façon Kubernetes que beaucoup font. Donc pour moi, ça va vraiment être ça. Savoir gérer les applications et amener tous les éléments positifs du dev dans la philosophie du travail de l'admin 6 pour en faire un métier de SRE.
Donc du coup, ce que tu me dis en fait, c'est que le fameux poste qui pour moi n'en est pas un d'ingénieur DevOps, c'est en fait SRE tout simplement.
Ça s'y rapproche beaucoup plus. En tout cas, lui, c'est un vrai titre.
Ok, on est d'accord. Du coup, j'en profite parce que ça fait écho à un podcast que j'ai sorti il y a quelque temps qui s'appelle l'Admin 6 DevOps, où on a discuté avec Ludovic Piau justement de ce poste-là qui la fiche de poste, enfin, qui est sortie officiellement. Et donc, je pense que c'est un prémisse du SRE, ou en tout cas, c'est une partie de la transposition, parce que c'est pas un niveau Bac plus 5, mais c'est un niveau Bac plus 3, je crois, l'admin 6 DevOps. Est-ce que tu penses que c'est justement un prémisse à ça, qu'on va voir arriver une fiche de poste un jour, je dis officielle?
Pour moi, les fiches de poste sont aussi énormément teintées par la mode DevOps. Une mode qui a fait apparaître énormément de fiches de poste d'ingé DevOps qui voulait tout et rien dire. Des fois, c'est celui qui s'occupait de la CI, des fois, c'est celui qui communiquait entre les DevOps. Pour moi, le SRE, je commence à voir la même chose arriver en termes de buzzword et d'utilisation du terme. Donc, on va pouvoir y trouver derrière un peu tout et parfois n'importe quoi. Même certains qui m'ont entendu le définir, peut-être ne seront pas d'accord avec la définition que j'en ai donnée. Je pense que ça arrivera. En tout cas, pour moi, il y a besoin d'avoir ce poste-là qui soit quand même une extension de l'admin 6 qui va plus loin que je redémarre l'appli et si ça marche pas, je vais juste contacter les devs.
Ouais, alors j'aurais peut-être dû utiliser le terme de titre RNCP plutôt que fiche de poste, parce que c'est à ça dont je faisais référence, c'est un titre officiel pour valider en fait des études. Et après, la fiche de poste au sein des entreprises, bah, les entreprises, elles font ce qu'elles veulent, on a bien vu ce que ça donnait. Du coup, j'ai quand même l'impression que c'est un métier qui est très peu connu en France. Est-ce que tu confirmes ça?
Ça commence à arriver. Ça devient de plus en plus tendance. Je connais des personnes, par exemple, chez Doctolib qui ont ce titre-là et ils utilisent ce titre depuis un ou deux ans maintenant. Donc, sur les entreprises franco-françaises ou au minimum européennes, ça commence à apparaître. C'est beaucoup plus présent côté Amérique, forcément. Je pense que ça va grimper assez vite parce qu'avec le cloud, on commence à avoir de plus en plus de mises en prod, des choses qui vont de plus en plus vite. Et il y a besoin d'avoir la personne au bout de cette chaîne qui sait gérer et faire redescendre les choses.
Ouais, c'est vrai que quand je parlais d'entreprises françaises, je parlais plus de manière générale parce que là, les exemples que tu m'as cités, c'est des entreprises tech à la pointe, on va dire. Et donc, c'est le sommet de l'iceberg pour moi. Et quand on sait, et justement, ça va faire partie de ma deuxième question, quand on sait que il y a beaucoup d'entreprises en France qui sont même pas encore passées au DevOps, moi, ça m'étonne à moitié que, justement, le SRE soit pas plus répandu que ça. Et ma question, du coup, c'est est-ce que tu penses qu'une entreprise qui a pas rejoint le mouvement DevOps, qui a pas mis en pratique la philosophie, etc., est-ce qu'elle peut avoir quand même des SRE au sein de ses équipes?
Je dirais que non. Pour moi, c'est très compliqué parce que, étant donné par définition de départ que le SRE est une implémentation DevOps, bah, si t'as pas cette philosophie au départ, bah, ça va être compliqué de mettre en application. Et je pense, par rapport à la réponse que tu m'as donnée, donc des entreprises moins tech que ce que j'ai cité, bah, elles vont potentiellement plus se tourner vers des solutions et des éléments managés qui vont en fait déporter le SRE chez quelqu'un d'autre. En fait, quand tu payes un service managé, d'une database managée, d'un Kubernetes managé, peu importe, en fait, il y a des SRE derrière qui bossent pour toi. Tu ne les vois pas. Ils t'assurent juste que ton service va être disponible à 99,99. Tu n'as jamais de contact avec eux, mais ils te l'assurent. Et en fait, eux sont là pour toi. Si ton entreprise n'a pas les moyens, la philosophie, la culture et tout ça pour le faire, elle prend un service jusqu'à OSAS hein, qui le fera pour toi.
Ouais, enfin, faut quand même des compétences pour gérer le SaaS. Je vois, j'ai des gros clients, je vais pas les citer ici, mais dans la grande distribution notamment, ils ont eux-mêmes leur propre data center, ils passent petit à petit au cloud, voire à des clouds internes. Ces gens-là, ils sont pas encore passés au DevOps. Pourtant, ils ont 200 à 300 informaticiens qui gèrent leur prod. Alors, je sais que c'est dur pour eux de passer au DevOps parce que tous les clients que j'ai qui ont cette taille-là, c'est hyper compliqué, c'est pas dans leur culture. Et quand ils y vont, ils essayent d'y passer par l'automatisation en oubliant la partie culture et en se disant qu'ils peuvent y arriver tout seuls. Ça, c'est un autre sujet. Est-ce qu'ils vont être tentés d'embaucher des SRE justement parce qu'ils vont aller vers l'automatisation? C'était aussi ça le sens de ma question.
Je pense qu'ils vont y aller, comme ils ont essayé, et je l'ai vécu aussi dans des entreprises que je ne citerai pas, ils ont embauché des ingénieurs DevOps qu'ils ont mis responsables de la CI. Donc je pense qu'ils feront la même chose parce que la culture, la tendance, et même les décideurs, ça va être un mot-clé qui va apparaître de plus en plus, vont essayer de recruter ce type de profil, et peut-être ils les mettront dans une position qui sera celle de l'entreprise et qui sera pas celle de la définition même de SRE. Ils feront peut-être de l'admin sys à l'ancienne, ils feront peut-être pas exactement ce que la philo DevOps slash SRE peut amener. Mais pour moi, ils y viendront parce que si tu as une prod que tu tiens et que tu as besoin d'aller vite, tu as besoin de ce type d'équipe. Après, si ce sont des entreprises qui ont un rythme malgré le DevOps avec une release tous les 3 mois par exemple, tu as peut-être moins besoin de personnes en charge de ce genre de choses. Il y a moins de chances. Je dis pas qu'il y en a pas. Mais logiquement, si tu ne mets pas à jour ton application 10 fois par jour, tu as 10 fois moins de raisons d'avoir des problèmes.
Tout à fait. Du coup, on va rentrer un petit peu dans le quotidien de ton métier. Qu'est-ce que tu fais finalement au jour le jour? C'est quoi tes tâches récurrentes dans ton métier? Alors, je vais dire de SRE, hein, parce que même si tu n'as pas le titre officiel, mais on a bien compris, c'est ça ce que tu faisais. Tu fais quoi finalement régulièrement?
Alors, ça va vraiment dépendre. Ça dépend de beaucoup de choses, comme un peu la réponse universelle dans l'informatique. Moi, je vais normalement un SRE et j'essaye de me rapprocher de ça, mais encore une fois, on n'a pas adopté à 100% ce modèle-là. C'est d'avoir 50% du temps où tu vas régler des problèmes. Ça veut dire que tu as de la prod qui tombe, tu as des services où tu vois que. Alors, je vais utiliser des acronymes propres au domaine SRE, c'est les fameux SLO, SLI, c'est nos indicateurs. Est-ce que le système marche? Et on sait s'il marche à 90%, 99%. Et en fait, on va passer notre temps à suivre ça et à intervenir si ça ne marche plus pour le régler. Et par contre, les 50 autres pourcents du temps, on va passer notre temps à améliorer le système pour que les 50 premiers pourcents, ils diminuent. Donc au final, on a des interventions à faire plus que 30% du temps. Et en fait, c'est se battre continuellement pour que tu en fasses le moins possible. C'est en fait le boulot qui, par définition, crée si la branche sur laquelle il est assis de son propre travail. Si tu as tout fait, tu n'as plus rien à faire. Après, dans l'ingénierie, on sait qu'on a toujours des choses à faire, donc ça, il n'y a pas de problème. Et donc, ça va vraiment être cette dualité de régler des problèmes qui arrivent et aussi trouver les solutions pour que ces problèmes n'arrivent plus.
Justement, en parlant d'acronyme, je rappelle à notre auditeur ou notre auditrice, au moment où on enregistre, le podcast n'est pas sorti, mais au moment où celui-ci sera publié, le podcast sur les astreintes et la production Radio DevOps sera sorti. On parle justement de tous ces acronymes. Donc vous pouvez aller faire un tour sur ce podcast-là pour avoir le vocabulaire et tout ça. Parce qu'on parle des astreintes. D'ailleurs, bah, une question qui n'était peut-être pas dans mes notes, mais est-ce qu'un SRE, il fait des astreintes? Est-ce qu'il est possible qu'il fasse des astreintes, justement?
Alors, il peut, dans la définition et dans le livre officiel que Google a fait pour décrire le Situability Engineering, ils en parlent. Après, la volonté n'est pas de cramer les personnes. Donc, ça va être vraiment dans un mode géré. C'est-à-dire que tu vas pas faire ta journée standard plus les astreintes derrière parce que on sait, les astreintes et les humains surtout, on a une façon de réfléchir qui va être particulière. Donc, quand on va être fatigué, on va être beaucoup moins attentif et on va se dire c'est ça la solution au problème de prod qu'il y a à l'instant. Généralement, tu vas te baser sur les 10 derniers problèmes que tu as eu. Mais peut-être que cette fois-là, c'est pas la bonne. Donc, on ne peut pas avoir des personnes qui soient éreintées en fin d'astreinte à gérer des problèmes de prod si en plus ton système ramène énormément d'argent. Vaut mieux avoir des personnes fraîches pour travailler à ces moments-là. Donc, tu peux en faire. C'est pas forcément. J'ai toujours cette vision de l'astreinte négative de tu fais ta journée et en plus t'enchaînes 6 heures derrière. Pour moi, on n'est pas, on ne devrait pas être dans ce modèle-là.
Ah, clairement pas, hein. Moi, pour l'avoir fait, je sais que je l'ai fait pendant 4 ans et ça m'a lessivé, hein. J'ai fini par être tout le temps fatigué et puis j'ai quitté la mission, mais enfin j'ai demandé à quitter la mission. Mais non, c'est l'astreinte, c'est comme vu comme ça, non, il faut pas. Est-ce que tu peux avoir, parce qu'on sait que le monde de l'infrastructure, il est vaste, tu peux avoir l'infra as code, enfin la conception de tes infrastructures avec du code, tu peux avoir la configuration de ton monitoring ou de ta supervision, etc. Est-ce que il y a des spécialités chez vous, parce que j'imagine que vous êtes une équipe de SRE, t'es pas tout seul, et est-ce qu'il y a des spécialités, est-ce que vous travaillez en binôme, est-ce que vous faites tous tout, auquel cas bah, vous êtes très fort, hein, bravo.
Alors, et que ce soit par goût ou par compétence, chez nous en tout cas, on ne fait pas tous tout. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être plus. Moi, par exemple, je l'assume, je ne suis pas du tout calé sur la partie Terraform. C'est quelque chose que je gère moins. Je sais gérer des infrastructures, mais pas au travers de Terraform, par exemple. Et j'ai des personnes qui savent mieux le faire que moi, mieux l'architecturer, mieux l'organiser, mieux le coder. Et bien au final, ce sont ces personnes qui vont plus gérer ça. Par contre, on est continuellement en discussion sur les travaux qu'on doit faire. Moi, je vais être beaucoup plus de par mon passif sur la partie Kubernetes. Je travaille sur Kube depuis 2016. Donc, au final, j'ai un background dessus qui me permet d'être celui qui va dire l'application, faut qu'elle change à ce niveau-là parce que ça permettra de mieux fonctionner à l'échelle quand l'application scalera ou quoi que ce soit. Et par contre, après, derrière, je peux demander aux personnes qui sont un peu plus à même sur la partie infra de gérer la création des node pools, la création des informations, des éléments qui vont bien, qui sont utiles pour la particule. Donc je suis un peu consommateur et un peu celui aussi qui va dire aux autres ce qu'on pourrait améliorer. Et des fois même, je vais le travailler dessus pour moi-même l'améliorer. Je vais faire un petit peu tout. Et dans l'équipe, c'est vrai qu'on s'est réparti les tâches, mais par contre, on est un peu tous capables d'intervenir sur les tâches des autres. Je peux modifier Terraform. Je me porte mieux si je le fais pas, mais s'il y a besoin, je le fais.
Oui, vous partagez des connaissances, mais c'est vrai que du coup, la spécialité, il y en a plusieurs. Vous êtes combien dans votre équipe, par exemple?
Alors aujourd'hui, 1, 2, 3, 4, 5 avec notre team lead qui a les mains dans le cambouis aussi souvent que moi quasiment. Donc voilà, minimum 5.
Vous gérez une grosse production?
Chez Gradle, en fait, on fournit notre service Gradle Enterprise. Que ce soit, en fait, on gère la prod. Pour moi, prod, c'est tout. Ça veut dire que l'instance qui tourne pour les développeurs en interne pour tous les jours, ça a la même priorité que l'instance de prod principale qui est sur scalesgradle.com. Parce que dans les deux cas, s'il y a un problème, il y a des gens qui vont être impactés. Pour moi, ça, c'est la prod. Et aujourd'hui, on gère pas mal d'instances. Oui, on doit, je pense qu'on est autour d'une vingtaine d'instances de notre produit parce qu'on donne accès à des instances gratuites pour les projets open source. Donc au final, un projet open source y a accès. Spring, XWiki et plein d'autres ont accès à ça et profitent, donc il ne faut pas les impacter.
Est-ce que tu peux nous raconter un problème de production que tu as vécu et que tu as pu résoudre soit grâce à l'automatisation, soit grâce au DevOps, soit en utilisant les techniques que tu as apprises dans le métier de SRE justement?
Alors il y en a un très... Alors je le cite souvent quand je parle de l'observabilité. Pour moi, c'est vraiment un des éléments clés hein, de la partie SRE, c'est qu'il faut que on est là quand notre système tombe, faut qu'on soit capable de savoir pourquoi il est tombé. Et pas juste j'ai une 503, le système est dans. Et donc l'observabilité, ça m'a aidé dans un petit bug de code, un truc tout bête de mutabilité d'un constructeur, d'un builder, qui avait été utilisé dans deux méthodes concurrentes. Donc au final, un bug qui ne se passait que dans certaines conditions vraiment très spécifiques. Si ça, ça avait été géré en mode... c'est pas péjoratif, mais admin 6 à l'ancienne, c'est ça ne marche pas, débrouillez-vous, je vous donne les logs, on s'en serait jamais sorti. Là, en fait, ce qu'on a permis de faire, c'est qu'on avait sur Google Cloud, on avait les traces et les logs distribués. C'est-à-dire que pour chaque requête, on était capable de voir où le code, dans le code, où la requête passait et quel bout du code a été impacté. Et grâce à ça, grâce à cette forte observabilité, on a pu détecter ce problème de mutabilité et de comprendre pourquoi un système était, en plus c'était encore plus vicieux que ça, il n'était pas down, il envoyait les données au mauvais endroit. Donc pour derrière le détecter, c'était encore plus compliqué. Et de ça, on a appris, parce que c'est aussi la boucle vertueuse SRE DevOps, hein, on a appris de ça et ça nous a permis de mettre des nouvelles métriques de monitoring pour vérifier que les systèmes continuent à fonctionner correctement s'il y a une régression ou quoi que ce soit dans le code.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ah, c'est super intéressant, merci. Du coup, je voulais savoir, toi, quelles études tu avais fait et selon toi, quel type d'études il faudrait, c'est quoi le panel d'études pour pouvoir faire ce métier-là?
Alors, quelle étude j'ai fait? Ça remonte un peu maintenant. J'ai fait une licence d'info donc dans les années 2000, fin des années 2000, fin des années 2000. Licence d'informatique suivie d'un master qui était beaucoup plus lié à la sécurité des systèmes d'information qu'au back-end pur. Mais par contre, ça m'a permis d'avoir déjà une multi-capacité sur cette partie-là. Et en fait, tout le reste, je l'ai appris par l'expertise, par les expériences. C'est ah bah tiens, tu veux tester ça? C'est peut-être, certains diraient pas la bonne chose. Est-ce que tu veux tester ça? Bah ouais, on va essayer. On va voir. Peut-être que ça me plaira pas et je serai capable de le dire. Peut-être que je vais apprécier, je vais continuer. En fait, au fur et à mesure des expériences, je me suis spécialisé sur ces éléments-là. Et c'est même malgré moi où je me suis rendu compte qu'en lisant la définition d'SRE et de ce que j'aime faire, j'étais plus proche de ça dans ce que je veux faire tous les jours que d'un simple, que d'un développeur back-end plutôt, qui juste implémente de la feature. C'est top, mais moi j'adore l'adrénaline de la prod. Sur le comment le devenir, bah aujourd'hui je ne saurais pas te dire. C'est pour moi, il faut avoir, en tout cas ce que je trouve important, et avec les personnes avec lesquelles je travaille, c'est le cas, c'est avoir une connaissance sur le back-end, comment le code fonctionne, comment ça tourne, et avoir la curiosité d'aller voir et de vouloir trouver, ah ben tiens, on est passé dans telle branche de code, ça a fait ça à tel moment, et là, ah tiens, il y a peut-être cette petite chose-là qui est peut-être asynchrone et qui a déclenché un autre problème. Savoir avoir ça, pour moi, il faut avoir quand même un background de back-end développeur, back-end au sens large, le développeur en tout cas. Et ensuite, bah, avoir la conscience et apprendre et avoir le s'amuser en fait dans ce qu'on fait et tester plein de choses. Je sais que beaucoup n'ont pas la capacité, le temps de tester des choses à la maison parce que bah, on a tous des vies. Mais c'est vrai que pour découvrir, moi j'ai passé un temps fou, mais que j'apprécie et que j'ai choisi, à bah, installer mon propre cluster Kube à la maison et tester des choses. Parce que c'est en les testant des fois dans des cas concrets que j'arrive à me rendre compte que tiens, ça c'est la bonne solution. C'est pas parce que c'est le produit en vogue du moment, c'est parce que là, ça résout un problème qui m'est important. Et ça, c'est vraiment par rapport à cette question, ce que je dis généralement aux juniors qui arrivent dans ce domaine, c'est apprenez vraiment les idées principales des outils sur Kubernetes par exemple, apprendre la philo de l'outil plutôt que de suite se lancer dans le premier chart Helm. Ça n'a aucun intérêt. Apprenez vraiment l'outil, apprenez la philo de ceux qui l'ont créé. Il y a des très bons livres là-dessus, très didactiques, pour comprendre. Et ensuite, si vous avez compris le concept, généralement, l'implène, elle va toute seule. Donc vraiment, pour moi, c'est plus ce genre de choses-là qu'aujourd'hui, des études que je saurais conseiller, puisque je n'ai pas tout le panel de ce qui se fait.
Je suis assez d'accord. En plus, je vois souvent les jeunes se jeter sur les tutos. Et en fait, les tutos, ça ne fait que vous tenter de reproduire quelque chose. Et en fait, si on ne comprend pas la logique, c'est dur de faire des choses. Par exemple, je conseille toujours aux gens avec qui je travaille qui ont moins d'expérience, comment on fait de l'automatisation d'infrastructure. C'est d'abord, dans un premier temps, de le faire manuellement une première fois pour comprendre tous les trucs. Et après de l'automatiser, parce qu'en plus, tu sauras le refaire manuellement.
Exactement. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez GitLab, c'est que tu gardes cette impression de c'est un fichier qui décrit ce que j'aurais fait manuellement. Très souvent, il nous est arrivé de, on n'avait pas notre CI prête, on avait notre fichier d'automatisation côté GitLab, ben on copiait-collait les commandes pour les exécuter nous-mêmes. Et ça nous permettait de livrer si notre instance GitLab, qui était la seule en charge de faire la livraison, était down, on pouvait quand même livrer en juste suivant ce cahier de recettes, en fait.
Exactement. Et l'autre truc avec lequel je suis d'accord avec toi, moi aussi finalement j'ai un background développeur back, vu que j'étais proche de la machine et je développais des démos en C. Je crois qu'on peut pas faire plus back-end que ça. L'intérêt du développeur back-end, c'est qu'il est proche de la machine où ça va s'exécuter. Le développeur front, lui, il va tourner dans un navigateur, sauf que dans l'infrastructure des navigateurs, on n'en gère pas vraiment. Et en fait, avoir les concepts de développement, la logique, l'algorithmie, va nous pousser aussi à l'automatisation. Et en faisant de la prod, on va avoir des problèmes qu'on peut résoudre avec l'automatisation. Mais pour moi, j'ai l'impression dans tout ce que tu me dis, et ça confirme ce dont on discutait avec justement Ludovic dans ce fameux épisode de podcast sur l'admin 6 DevOps, on ne peut pas vraiment embrasser complètement le DevOps si on n'a pas fait plusieurs rôles dans l'entreprise, développeur, exploitant, admin 6, pour avoir une vue périphérique de tout le SI. Même si, à titre perso, j'essaie de donner une vue périphérique du SI à mes élèves quand je suis en cours, quand je donne des cours, ça ne remplacera jamais l'expérience qu'ils auront en entreprise.
Tout à fait. Et il y a des fois, il y a des choses que tu n'imagines même pas tant que tu n'as pas livré ton application. Parce que si tu veux faire des choses, et les serveurs sont généralement liés à des problèmes à l'échelle, avec des services déployés dans le monde entier, ben, tu n'y penses pas au départ de te dire, ah, mais mon cluster Kube, il dépend peut-être d'un registré d'images qui, lui, est dans une seule région, et peut-être que s'il lui tombe, ok, ton cluster, il marche. Et si ça doit être mis à jour en même temps, si ton service passe à la télé et est très demandé, ça va scaler, et résultat, ton registré d'images, il va pas servir. Et donc, ton serveur ne va pas marcher. Alors que tout est là, sauf un truc que tu n'as pas pensé. Donc, c'est vrai que c'est l'expérience, généralement, et c'est une phrase que j'utilise souvent dans des présentations, c'est on apprend des échecs. Et dans le SRE, il y a une philosophie qui va aussi avec la logique DevOps du post-mortem. On apprend en faisant des erreurs et en les rédigeant. On rédige quelque chose pour ne pas l'oublier. Moi, je suis un poisson rouge. Je fais un tour de bocal, j'ai oublié ce que j'avais fait la veille. C'est en relisant des fois des post-mortems que j'ai écrits, je me suis dit, ah, ça, on s'est planté pour ça. Donc, on va l'améliorer et au moins, on aura l'information de pourquoi on s'est planté. Qu'est-ce qu'on a fait mal au départ?
C'est important ce que tu dis parce que moi aussi je m'aperçois que j'ai ma mémoire qui défaille. Alors, je ne sais pas si c'est ma mémoire qui défaille ou si c'est aussi parce que je me rappelle quand j'étais plus jeune, on n'était pas inondé d'autant d'informations, que ce soit au boulot ou ailleurs, hein, mais je pense que nos cerveaux sont sursollicités et que c'est pas forcément un problème de mémoire qu'on a, mais que juste le cerveau il n'arrive plus à suivre et que là aujourd'hui, c'est plus possible. Et au boulot, même si on se contente que des informations du boulot, avec les Slack, les trucs, le nombre de technos qu'on doit gérer, ça devient compliqué en fait. Et donc, si on oublie, c'est pas grave si on l'a marqué quelque part.
Exactement. Moi, je le reconnais. Quand je dis que je suis un poisson rouge, je le cultive aussi. C'est-à-dire que je préviens tout le monde. Dites-moi quelque chose, une seule fois comme ça et ne le tracez nulle part, j'aurais oublié. Par contre, faisons les choses bien pour que tout le monde s'en rappelle, c'est important.
C'est pour ça que c'est aussi important le as code, parce que ça écrit dans le code informatique ce qu'on doit faire.
Oui.
Et la documentation aussi doit être dans le code.
Et pour moi, la doc et les post-mortem en font partie, et dans ma précédente mission, et là aujourd'hui on le fait, mais on démarre tout juste sur cette partie-là, tous les post-mortem sont avec le code, et l'avantage c'est qu'ils sont versionnés. Donc, tu peux remonter à la version du jour où il y a eu le problème. Et ça, c'est inestimable.
Alors ça, on ne le fait pas. Typiquement, nous, pour Frogit, je pense que tu connais Frogit, mais pour l'instant, on a des fichiers Markdown qu'on garde sur un Nextcloud. Et à chaque fois qu'on a un incident, on en fait un nouveau. Sauf que ça, c'est bien, mais bon... Pour la bêta, en tout cas, c'est bien. Mais de plus en plus, je me dis, on va utiliser les issues incidents de GitLab, parce que GitLab a sorti ça. Donc, du coup, on va utiliser les issues incidents pour garder une trace de nos incidents. Alors, certes, ils ne seront pas dans le code, mais ils seront dans le dépôt. Je ne sais pas ce que tu penses de cette approche, toi.
Eh ben, j'aime beaucoup le GitLab, mais là, sur ce coup, je préfère encore le code. Parce que quand je suis dans le flow de mon IDE, de mon environnement de développement, où je vais avoir toutes les infos, passer d'un lien qui se trouve dans le code, dans le post-mortem, à un bout de code qui se trouve dans le même IDE, au même endroit, avec la même version du code, mais beaucoup plus intéressante que deux outils côte à côte. Donc perso, très bien que GitLab l'ait fait, ça répond certainement à un besoin. Je préfère encore me retrouver exactement dans mon code à la date que je veux, et je peux remonter dans le temps si je veux pour tomber sur le post-mortem qui va bien, par exemple.
D'accord. Mais du coup... ça veut dire que tu ouvres une merge request à chaque incident, mais que si tu as un update de l'incident, il va falloir que tu reviennes sur un bout de Markdown qui a déjà été fusionné, j'imagine.
Oui, potentiellement. Dans la philo de SRE, logiquement, c'est tu rédiges ça pendant que ton problème arrive. Donc là, tu peux être dans un Google Drive ou quoi que ce soit, n'importe quel outil qui te permet d'être collaboratif. Et par contre, ton post-mortem, donc le truc que tu vas figer et permettre la consultation pour les autres, va être dans le code. Donc moi, c'est plus dans ce modèle-là plutôt que le fait de l'éditer à chaque fois que tu modifies un point virgule dans le post-mortem.
Ok, bah merci. Alors, j'ai une question, c'est quel conseil tu donnerais à un novice, donc soit un jeune qui débute, soit quelqu'un qui veut se reconvertir. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour se lancer dans ce métier? Alors, tu l'as dit, tester des trucs, mais quel autre petit truc, quel autre conseil tu pourrais donner?
Vraiment, je pense, sans répéter globalement ce que j'ai dit, sur expérimenter, vraiment, et prendre, n'hésitez pas. Alors, ce sont des ressources qui peuvent être un peu plus chères que le simple tuto sur Internet, mais les livres, on a vraiment dans notre domaine technologique des ouvrages qui sont de très très bonne qualité, généralement édités par ceux qui ont écrit le code, que ce soit de Cube, de Istio, pour ceux sur lesquels je travaille, SRE, c'est des ingés de Google qui ont écrit le livre. Lisez ça, c'est la base. En fait, tous les articles de blog découlent généralement de ces choses-là. Donc, c'est peut-être moins accessible en termes de coût, mais par contre, c'est très, très, très important de mon point de vue. Et après, ça va être hyper bateau ce que je vais te répondre, mais entourez-vous de personnes qui partagent des informations. C'est-à-dire que moi, j'adore bosser avec des personnes qui vont me permettre d'apprendre et auxquelles je vais pouvoir donner et rendre ce que j'ai appris aussi. Donc, c'est comme ça que tu vas le mieux monter en technologie pour apprendre, je vais faire ma phrase de vieux, hein, auprès du vieux singe, celui qui a connu déjà la prod et les problèmes et qui va dire non, là, ça touche pas, ça marche pas. Et la plus importante des choses, c'est pourquoi on touche pas. C'est pas juste, je lui fais confiance, il m'a dit, c'est touche pas à ça, regarde le post-mortem qu'on a écrit. Parce que peut-être que depuis, on a amélioré des choses qui sont écrites dans ce post-mortem et donc on va pouvoir changer. Et ça m'est arrivé très souvent de dire ça à des personnes plus juniors que moi, et au final, discussion m'est rendue à améliorer le système. Donc vraiment pour moi, apprendre à partir des bonnes ressources, et j'en suis vraiment revenu, hein, des tutos Hello World qui font des lignes droites, qui te présentent juste le truc qui tourne à la fin, et avoir des personnes avec qui partager, et aujourd'hui il y a des meet-up, il y a des confs qui reprennent, merci, la période commence à être plus propice, profitez vraiment de tout ça.
Alors, ça me fait penser à deux choses. Alors, la première, je vais forcément aller dans ton sens sur entourez-vous. Hein. C'est pas pour rien que j'ai créé les compagnons du DevOps, c'est pour nous entourer. Il y a le compagnonnage. En plus, je trouve que cette méthode d'apprentissage, comme tu viens de le dire, hein, trouver quelqu'un qui nous mentore et même nous-mêmes trouver quelqu'un à mentorer, parce que ça marche aussi dans l'autre sens. Quand on apprend quelque chose à quelqu'un, on renforce ses compétences. Donc, entourez-vous. Si vous êtes dans une société, trouvez un mentor interne. C'est super important. Ça peut être votre manager, mais ça peut être n'importe qui, en fait, quelqu'un qui a plus d'expérience que vous. Et ce que tu dis sur les bouquins, moi, ça me fait tiquer à chaque fois. Tu dis que c'est un peu plus cher. Alors, quand j'étais plus jeune, je réfléchissais comme ça. Et puis, à un moment donné, dans ma vie, il y a eu un switch, en fait. Parce que, en plus, j'ai été éditeur de bouquins, de jeux de rôle. Les jeux de rôle, c'est cher aussi. Et donc, j'ai su pourquoi est-ce que les bouquins d'informatique étaient aussi chers. Déjà, ils sont vendus à peu d'exemplaires. Donc, pour payer les auteurs, c'est rude. Mais là où je veux en venir, c'est pas si cher que ça. Parce que même un bouquin à 60 balles, si j'ai acheté des bouquins à 55 euros sur Docker, par exemple, je veux dire, on a des salaires qui nous permettent de nous acheter des bouquins comme ça ou d'acheter des formations.
Ou de les faire acheter par la boîte.
Alors oui, j'allais y venir. Ou de les faire acheter par la boîte. Mais même sans ça, nos salaires nous permettent même d'acheter des bouquins ou de nous acheter des formations. Mais le plus important, votre boîte, elle y pense peut-être pas, mais vous pouvez très bien aller voir la boîte et lui dire, voilà, il y a ce bouquin qui est super intéressant, il coûte 50 euros. Honnêtement, moi, en tant qu'employeur, hein, mon employé vient me voir et me dit, hey, il y a ce bouquin qui a l'air super, il coûte 50 euros. Et l'employé qui me dit, hey, il y a cette formation qui a l'air très bien, elle coûte 3500 euros, parce que c'est ça, en fait, le prix des formations dans la tech. Je vais dire, ok, le bouquin, vas-y, achète-le, la formation. Attends, on va en discuter un petit peu avant parce que quand même. Ou même une formation par Internet qui coûte 200, 300, 400 euros, ça reste encore largement achetable par une société. Donc, demandez à vos sociétés. Mais aussi, si vous avez des salaires à 3000, 4000 euros, honnêtement, vous empêchez pas d'apprendre si vous avez envie.
Alors pour te donner le feedback, si tu souhaites des juniors à qui je donnais ce conseil, et c'est pourquoi je teinte un peu en disant que parfois c'est un peu cher, c'est que j'ai vu des juniors donc embauchés à des salaires assez bas, vraiment. Notre domaine a tendance à monter maintenant, mais avec des salaires qui à l'époque n'étaient pas très hauts, et qui en plus me disaient c'est top, je vais acheter ce livre-là, mais dans 6 mois, il y a la nouvelle version du framework, de la lib, du machin, du truc qui sera sorti. Si, le temps que je finisse le livre, peut-être que ça s'y appliquera plus. Et c'est là où il faut faire quand même attention dans ses choix. Oui, sur quelque chose qui est extrêmement mouvant, mais c'est le temps. C'est peut-être pas le livre qui va vous permettre de tout apprendre. Mais sur des éléments qui commencent à être fondateurs pour votre boulot, je vais citer Kubernetes encore, mais si vous l'utilisez, généralement, vous n'êtes pas sur la dernière version et ce genre d'outils, ils évitent de tout péter d'une version à l'autre. Donc, vous pouvez investir. Mais c'est vrai que j'ai eu le cas avec des personnes qui me disaient « mais c'est trop cher, je ne peux pas me permettre ce genre de choses. » Je les redirigeais généralement vers l'entreprise et en rationalisant que parfois, si votre boss refuse, le temps qu'il a mis à écrire le mail de refus, c'est le prix du bouquin dans son salaire. Donc au final, s'il n'y a pas de discussion, des fois, ça coûte moins cher.
Exactement. Alors moi, je fais partie de ces gens qui ont commencé avec des bas salaires, parce que moi, j'ai commencé avec un BTS. Alors j'ai commencé à 8000 francs. C'était des francs. Alors 8000 francs, je ne sais pas combien ça fait d'euros, mais bon, c'est pas beaucoup. En 2000, un peu avant 2000. Et en effet, comme tu le dis, ouais, ça vaut pas le prix du bouquin le temps que la personne a mis à écrire. Non, honnêtement, un bouquin à 50 euros. Mais même moi, je dis, enfin, je veux dire à nos salariés, je leur dis, bah voilà, vous avez un budget de 50 euros par mois si vous voulez, si vous avez envie de vous acheter des trucs, allez-y. Hein. Me demandez pas surtout, parce que mon temps est plus précieux que ça. Si eux, ils estiment qu'ils doivent acheter un bouquin à 50 euros, bah, ils le font.
Et surtout, ouais. Excuse-moi, il y avait une présentation très bien qui a été faite par des personnes de Lunatech il y a quelques années. Elle est trouvable sur YouTube, qui explique que dans notre domaine, les devs, on a cette volonté de toujours optimiser les choses. Et on va optimiser aussi les coûts. Et au final, on a toujours cette tendance à se mettre en comparaison le tuto qui est disponible gratuitement sur Internet versus le prix du bouquin. Et donc, les devs, quand un dev te demande un livre, c'est peut-être une généralité, hein, mais c'est qu'il en a besoin. C'est-à-dire qu'il va pas te laisse-lui la carte bleue, il va pas te la cramer en ayant acheté tout Pluralsight, mais plus d'une plateforme qui existe, mais tous les Udemy et compagnie. Généralement, il va choisir en faisant attention. Donc, pour moi, c'est... Et côté Gradle, on a ce qu'on appelle, pareil, une bourse pour le Learning and Development dédiée à ça, et vous pouvez l'utiliser pour livres, formations et autres sans problème.
Bon, ben on va avancer un petit peu. D'après toi, quel type d'évolution on peut avoir au métier ? Je ne parle pas de l'évolution du métier lui-même, mais quelqu'un qui fait ce métier, s'il veut évoluer dans sa carrière, qu'est-ce qu'il peut faire après plusieurs années d'expérience ? Est-ce que tu en as déjà une idée ou pas ?
Et ben là, clairement, joker. Aucune idée. C'est pour moi, en fait, je suis très ancré dans la tech. Donc, je sais que certains... Ben, c'est devenir chef de l'équipe SRE et ce genre de choses. Devenir chef ou faire N+1, +2, c'est pas vraiment trip. Donc c'est vrai que pour moi, l'évolution, c'est l'évolution par la responsabilité de ce que tu vas gérer au sens technologique du terme. C'est-à-dire que bah, ton service, c'est plus un élément qui tourne comme ça, tu vas être dans l'équipe SRE de celui, de l'élément qui va représenter plus d'importance pour l'entreprise, qui va être plus critique à tous les niveaux, même les déployés à travers le monde. Donc vraiment, pour moi, c'est plus ce côté-là. J'ai aucune idée de ce que je ferai dans 5 ans. Déjà qu'il y a 5 ans, j'avais du mal à définir que j'aimais ce métier-là. Dans 5 ans ou plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, malheureusement, je ne peux pas te répondre.
C'est pas grave, écoute. Je vais te poser une autre question qui est un petit peu en rapport, mais est-ce que tu penses que justement il peut y avoir des SRE freelance ou est-ce que c'est un petit peu antinomique ?
J'ai beaucoup réfléchi, surtout quand je me suis posé la question de est-ce que je voulais faire passer côté freelance. Je pense que certains freelances qui se disent SRE te diront que oui, forcément, ils vont défendre le truc. Moi, je trouve que c'est bizarre, effectivement, parce que déjà, ça ne peut pas marcher sur une mission courte, ou alors tu vas juste prodiguer la bonne parole en disant « faites ci, faites ça, faites ça ». Mais pour moi, c'est vraiment avoir, quand t'es SRE, c'est avoir la connaissance sur le système, sur comment on fonctionne dans la boîte, sur ce qu'on veut faire, vers où on veut aller aussi, parce que tu vas pas régler les problèmes de la même manière, et savoir qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce qui n'est pas. Si tu es de passage, mission courte, moi, c'est compliqué. Moyen long terme, je trouve qu'en fait, t'es quasiment un freelance employé de la boîte avec juste un titre différent. Mais pour moi, il faut être vraiment impliqué dans le système pour pouvoir être SRE à ce niveau.
Je partage un peu ton point de vue parce que selon moi, d'après ce que tu m'as dit, le SRE, il doit quand même avoir un objectif qui est aligné avec celui de la boîte. Et donc, s'il n'a pas des intérêts alignés, parce qu'un freelance, il a, ça a beau être son client, ses intérêts, ils ne sont pas forcément alignés avec ceux de son client. Je pense qu'il y a un petit truc. Mais je pense qu'il peut y avoir des formateurs de SRE, des conseils de SRE, des mentors de SRE. Qui sait ? Peut-être.
Ça peut être la réponse à la question précédente. C'est qu'est-ce que tu fais après ? Bah, tu peux former les équipes SRE et ce genre de choses.
Oui, apporter un petit peu d'huile, les faire évoluer, etc.
Tout à fait.
On en a un peu parlé, mais d'après toi, c'est quoi finalement la différence entre l'admin SysCloud DevOps et le SRE ? Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que c'est la même chose ?
Admin SysCloud DevOps, bah, peut-être le numéro de version, c'est quasiment ça, hein. C'est puisque je l'ai décrit que le SRE, c'est peut-être le Admin Sys 2.0. Non, là-dessus, c'est vrai que j'ai regardé la définition et quand tu mets Admin SysCloud DevOps ensemble, bah, c'est la seule différence, ça peut peut-être être au niveau de la partie comment on va gérer et réagir à un problème. Si on met vraiment le terme Admin Sys, tu vas pas utiliser les éléments de la tech au sens développement et toutes les bonnes pratiques de développement au service de ton fonctionnement, même s'il y a DevOps qui peut dire l'inverse. Donc pour moi, ça reste vraiment très proche et je pense qu'on peut même être sur un synonyme. Mais j'aurais du mal à utiliser Admin Sys Cloud DevOps dans une phrase de toute façon.
Oui, parce que tu es soit Admin Cloud DevOps, soit Admin Sys DevOps. Sauf que quand tu fais de l'administration cloud, souvent tu fais de l'administration système. Oui. Je me posais la question avant de discuter avec toi, justement, c'était quoi la différence entre les deux ? Et j'ai vraiment l'impression que SRE, c'est le terme pour tout ça, en fait.
Ça peut. Et après, tu vas aussi avoir beaucoup, et peut-être que ça le fera. Ça l'est peut-être moins dans Admin Cloud Sys DevOps. C'est cette capacité à donner du feedback aux équipes de dev pour améliorer le système et même participer à cette amélioration continue. Alors, encore une fois, amélioration continue, on peut retomber sur DevOps, donc ça peut en faire partie. Mais j'aurais tendance à dire que dans cette philo SRE, tu vas avoir beaucoup plus ce genre de choses.
Mais c'est ce que j'allais dire. Pour moi, je colle DevOps, pour moi, c'est un adjectif que je colle au métier pour montrer comment est-ce qu'on fait ce métier-là. Et du coup, quand tu colles DevOps, c'est amélioration continue, etc.
Voilà.
On arrive vers la fin de ce podcast. Je vais te demander si tu as une ressource, un livre, un article, une conférence à conseiller. Alors, s'il te plaît, ne conseille pas le livre SRE de Google parce que de toute façon, je le mettrai en lien. Je mettrai le site de SRE de Google. Mais si tu as autre chose de moins évident à nous partager ou même un blog, hein, je ne sais pas.
Vraiment, pour moi, c'est une bible ce bouquin de Google. Donc, celui-ci, en fait, il y en a trois. Des fois, les gens oublient qu'il y a deux autres, donc potentiellement les deux autres aussi, qui sont des cas appliqués qui vont sur la version workbook, qui vont permettre de voir, OK, il y a cette situation, comment on réagit, comment on gère. Ça, c'est vraiment top. Et ils ont sorti une nouvelle édition qui inclut la sécurité. Donc ça aussi, ça peut être très intéressant parce que faut bien mêler tout ça hein, quand on délivre en prod. Il faut que notre système, c'est pas parce qu'on livre plus vite qu'on livre moins sécure. Hormis ça, bah, moi, je travaille énormément dans le monde du cloud et de Kubernetes. Donc j'aurais tendance à conseiller le livre de base sur Kube, qui est Kubernetes the Hard Way de Kelsey Hightower, qui fait partie de ceux qui l'ont pensé et fait à la base, et qui va vraiment apprendre les concepts pour pouvoir faire correctement dans le système. Donc une ressource, ne pouvant pas citer le bouquin SRE, je prendrais plutôt le Kubernetes the Hard Way.
Bah, ils vont bien se compléter, je mettrai les liens en description. Les auditrices et auditeurs veulent discuter avec toi, où est-ce qu'ils te retrouvent ? Je sais que tu as un Twitter qu'on échange beaucoup et un LinkedIn. Est-ce que tu veux que je mette les deux, un seul, d'autres choses ?
Partout où vous trouvez Davin Kevin, tout accroché, vous pouvez me contacter, donc Twitter, LinkedIn. J'ai un blog sur Dev2. Je fais pas mal de confs. Et après, de toute façon, je suis disponible si vous voulez, soit Twitter, par mail ou quoi que ce soit. Des questions, je réponds. Volontiers, donc aucun problème.
Eh bien, écoute, merci pour ta participation à ce témoignage. On en a appris un peu plus sur le SRE. Et je ne sais pas si toi, tu fais partie des compagnons du DevOps, si tu t'es inscrit.
Sur cette partie-là, je ne pense pas m'être inscrit récemment. Donc non,
Écoute, si tu cherches à échanger, en tout cas si toi, cher auditeur, tu cherches à échanger, je te l'ai dit en introduction, mais tu peux nous rejoindre sur les compagnons et on discutera justement des métiers, puisque avec ce podcast, il y aura un sujet sur le forum où on va discuter justement des métiers. Je te remercie de ta participation et en tout cas, je te dis à très bientôt.
Merci pour l'invitation.
My Little Team m'a proposé de créer un job board avec eux. Et comme j'aime leur façon de faire, je leur ai dit oui. Alors, si tu cherches un job, fais très attention à ce que je vais te dire. Ce job board me permet de te proposer des équipes que j'ai présélectionnées sur recommandation de My Little Team. En effet, elles ont une culture qui te permettra de t'épanouir. Et tu sais à quel point la culture est importante pour moi. Passer par mon job board, c'est aussi, pour toi, l'assurance d'être accompagné par My Little Team dans ton parcours de recrutement. Et en plus, tu me soutiens, car ce job board me permet de gagner de l'argent, et donc de financer les podcasts que tu aimes tant. Donc, rendez-vous sur vue.fr/jobboard-devops, mais sinon, tu trouveras le lien en description. Attends, si t'es manager, DSI ou directeur d'entreprise, et que tu cherches à recruter des personnes qui sont intéressées par le DevOps, tu l'auras compris puisque tu écoutes ce podcast, c'est l'endroit idéal. N'hésite pas à déposer tes offres d'emploi sur mon job board. C'est sur vue.fr/jobboard-devops-recrute. Mais c'est pas grave, le lien est aussi en description.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt! La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.